Histoire de voix, une série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
Que ce soit à l'opéra, dans la variété ou la pop, les grandes voix accompagnent souvent nos histoires d'amour. Elles consolent des aventures sans lendemain et des ruptures dévastatrices. Comme elles laissent aussi miroiter les plus beaux idéaux amoureux. Parce qu'on aime à croire que pour bien chanter l'amour, il faut l'avoir connu, la vie amoureuse des grandes voix fascine autant qu'elle fait carburer notre imaginaire. I had to escape, the city was sticky and cool. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. On associe la voix d'Édith Piaf à l'amour, c'est autant pour les paroles de ses chansons que pour ses flamboyantes idylles. Et c'est au grand jour et sans gêne que la môme Piaf a vécu ses amours. Des passions amoureuses plus ou moins longues qui lui ont valu la réputation de croqueuse d'hommes. Un de ses amants les plus célèbres, le chanteur Georges Moustaki, en interview avec Vincent Josse.
Pourquoi vous, les hommes, vous tombiez amoureux d'elle?
On ne pouvait pas résister d'abord à ce qui émanait d'elle, qui est indéfinissable, qui est magique. Je veux dire, c'est une attraction que je ne pourrais pas définir. Mais elle avait tellement envie d'être aimée qu'elle créait une sorte de courant affectif très fort auquel on ne pouvait pas résister. Elle n'était pas fière de son physique. Elle faisait 1m47, elle avait un corps trop maigre par rapport à son visage, qui était, sa tête qui était trop grosse, enfin... Mais quand elle était sur scène, tout devenait très beau. Et je crois que sa dépendance à la scène, et qui nous fascinait, vous disiez pourquoi les hommes sont attirés, parce que on n'a pas connu Piaf dans un dîner mondain, on l'a connu chanter, c'est-à-dire dans l'épanouissement d'une chanteuse géniale. Et ça, c'était irrésistible, c'est très aphrodisiaque. Je peux le dire, je veux dire, quand il y avait des baisses d'intensité dans nos relations amoureuses, il suffisait de penser à elle chantant ou de l'avoir chanté pour qu'elle retrouve toute sa séduction et tout son potentiel.
Édith Piaf.
Je suis toujours amoureuse, je ne me connais pas de moment où je ne le suis pas.
Une chanson doit exalter l'amour.
Oui, je pense que quand on se moque de l'amour, on n'est pas grand-chose dans la vie. Ceux qui sont dégoûtés de l'amour parce qu'ils ont eu des déceptions, ce n'étaient pas des vrais amoureux.
Il n'y a pas de joie comparable à celle que peut apporter l'amour.
Non, je pense pas, parce que même si on a un travail qui vous passionne, si on n'a personne à qui l'offrir, ce travail, je pense qu'il devient inutile. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
L'amour faisait peut-être voir la vie en rose à Édith Piaf, mais il en a été tout autrement pour Amy Winehouse. Sa relation toxique avec Blake Fielder a enchanté les journaux à scandale et surtout entraîné la chute de la jeune chanteuse britannique. Le journaliste et biographe Sofian Fanen.
C'est un vrai amour, en fait, Blake. C'est ça qui est le plus désagréable, peut-être. C'est que c'est un vrai amour entre les deux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que c'est pas quelqu'un de très recommandable. C'est pas quelqu'un qui lui a fait du bien. Il rentre dans sa vie dans un bar. Il joue au billard, elle tombe amoureuse. Il a une dent en moins, il a un chapeau, c'est le bad boy. Ça l'intéresse, Amy Winehouse. Elle a une vision très années 50-60, très grease de l'amour. Et donc, elle tombe comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait dans les interviews, peut-être pour provoquer les gens, parce qu'elle aimait bien aussi. Mais ça disait, mais moi, j'attends l'homme avec un triple H, l'homme parfait qui va s'occuper de moi et me protéger, etc. Alors qu'évidemment, elle était largement assez grande et forte pour se protéger elle-même. Et les hommes lui ont plutôt fait du mal, évidemment. Le problème, c'est que lui l'emporte, elle, dans ses addictions à lui. Donc, elle tombe assez rapidement dans les drogues, en plus de l'alcool qu'elle pratiquait déjà beaucoup trop. Mais le plus désagréable dans cette histoire, probablement, c'est qu'en fin de compte, elle se sort de son emprise. Back to Black, c'est un récit de l'après. C'est un récit d'une jeune femme qui s'est sortie de cette relation toxique, qui l'évacue avec des chansons à se rouler par terre en pleurant. Mais elle est au-delà, en fait. Quand elle enregistre Back to Black, elle va très bien. Elle est à New York, tout se passe très bien. C'est un disque qui s'enregistre dans une sérénité remarquable. Et Blake revient après avec le succès de Back to Black. C'est là où il ajoute le profiteur à l'homme toxique. Mais elle l'aime toujours. Donc, elle repart. Et c'est malheureusement cette chute-là. Même s'il va encore une fois ressortir de sa vie, ils vont se marier, divorcer, et elle va réussir à l'évacuer de sa vie. Mais les drogues et cette destruction du corps... va l'emmener jusqu'à la fin.
Ginette Renaud, pour qui Charles Aznavour a écrit la chanson « L'essentiel », a elle aussi connu des amours orageuses.
Moi, je vis que dans une famille dysfonctionnelle. Donc, au départ, je ne sais pas c'est quoi l'amour. C'est très, ça prend du temps. Ce que tu cherches aussi. Et que je l'ai cherché longtemps. Je l'ai cherché chez mon père. C'est écrit que lorsque la fille sent l'amour de son papa, eh bien, elle peut réussir dans la vie. Pas nécessairement sa vie.
En amour, est-ce que vous avez souffert beaucoup?
Je pense que oui, je souffre encore, mais je pense que c'est juste ça.
Vous voulez dire qu'aimer, c'est souffrir?
Oui. Ah oui, j'en ai la certitude. Ah oui, j'en ai la certitude.
Vous les avez aimés, les hommes, puis vous en êtes pas caché. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a tant plu chez les hommes?
La sécurité que je voulais avoir, que j'ai pas eue, mais c'est beau. J'étais pas capable de ramasser... Il y en avait 100, 99 de corrects, moi je poignais celui qui était pas correct. Mais c'est pas parce qu'il était pas correct, il était juste souffrant. J'en ai enduré pas mal, oui. Il y en a qui m'ont battu, il y en a qui m'ont violé. Toutes mes relations, c'était je t'haïs, je t'aime, je te punis. Je t'haïs, je t'aime, je te punis. Ça a toujours été comme ça.
L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre lui fendre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours, mon amour.
Parmi les grandes voix qui ont chanté l'amour, il y a sans contredit celle de Maria Callas. Sa voix incarne l'amour tragique et encore aujourd'hui, comme une flèche, elle nous transperce le cœur. Le réalisateur du film Maria by Callas, Tom Wolfe.
L'amour, elle le recherche d'une manière complètement idéaliste, puisqu'en fait, elle s'identifie tellement à ce monde romantique de l'opéra du début 19e, aux personnages de Norma, de Traviata, de Violette. Elle a une idée de l'amour tout à fait idéaliste et utopiste. Et d'ailleurs, qui va servir en grande partie la manière dont elle interprète ses rôles, puisque si elle ne trouvait pas ses personnages de femmes crédibles et si elle n'était pas capable de s'identifier à elles, elle ne pourrait pas les interpréter avec la justesse et la vérité qu'elle a réussi à y trouver.
L'actrice Fanny Ardant.
Je vois toujours la jeune fille, moi, dans Callas. Je vois toujours la jeune fille, et puis la contradiction, la fragilité. C'est comme une sorte de vie passionnée qui attend. Et après, tout ce qui s'est passé autour d'elle, il y avait toujours quelque chose, ou peut-être qu'elle faisait comme moi, que je trouvais que la chose la plus importante dans la vie, c'était l'amour, finalement. Et que peut-être on faisait tout le reste parce qu'il n'y avait pas d'amour.
Tom Wolfe.
Je pense que le véritable amour de sa vie, c'est Onassis. Clairement, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'âme-sœur entre les deux. Ils se rencontrent en 57 à Venise. Ils vont vraiment tomber amoureux en 59. Ça va être le début d'une idylle qui va durer un certain nombre d'années. L'idylle entre Callas et Onassis, bien qu'ils se rencontrent en 57, elle démarre véritablement en 59, au moment où Onassis invite le couple Meneghini-Callas, puisqu'elle est encore mariée. Elle n'est pas censée divorcer, du reste. Onassis les invite sur une croisière, sur son yacht, concomitamment au couple Churchill. C'est quelqu'un qui venait de rien et qui était devenu ce grand mania, armateur grec, millionnaire, milliardaire peut-être même. Et il avait toujours ce besoin d'exister aux yeux du monde, de prouver qui il était. Et cette façon d'inviter des personnalités, des célébrités sur son yacht, en sachant parfaitement qu'à chaque escale, il y aurait des photographes et que les unes de la presse de l'époque vraiment faisaient leur chou gras de ces fameuses croisières. C'était une façon pour lui un petit peu d'instrumentaliser médiatiquement qui il était et le personnage qu'il voulait incarner. Donc sur ce yacht, qui était absolument le comble du luxe, il y avait une piscine, il y avait des suites, enfin voilà, c'était un yacht absolument sublime. Et donc cette croisière en 59, elle va voir naître leur idylle, non pas entre un homme très célèbre, businessman, et la plus célèbre chanteuse du monde à cette époque, mais finalement entre une femme grecque et un homme grec qui se découvrent pendant cette croisière, qui découvrent tout ce qu'ils ont en commun, leurs racines grecques, évidemment, avant tout, et beaucoup de choses qui vont les lier dans leur personnalité, qui font qu'ils vont tomber amoureux. Et puis, les années suivantes, ils vont véritablement vivre une idylle. On va les voir dans le monde entier. C'est là que Callas entre un peu dans la vie jet set dans laquelle Onassis l'embarque. On va la voir côtoyer Elizabeth Taylor et tous les autres grandes personnalités de ce monde. Et puis, elle va aussi délaisser un peu plus. Pas complètement, contrairement à ce qu'on dit, mais elle va délaisser davantage la scène et les studios d'enregistrement pour vivre tout simplement sa vie de femme. Et puis, bon, la relation se vit comme une idylle jusqu'au moment où Onassis se met en tête qu'il va devoir conquérir la veuve la plus célèbre du monde, qui est Jackie Kennedy, ce qu'il arrive à faire.
France Inter, il est 13h. Yves Morouzy présente le journal d'Interactualité Magazine.
Jean-Claude Bourret, bien sûr, vous nous donnerez, vous, des nouvelles de cette étonnante affaire, ce mariage dont on a appris la nouvelle cette nuit, du mariage de Jacqueline Kennedy.
Maria Callas le raconte elle-même dans une lettre particulièrement émouvante à Elvira de Hidalgo. Elle apprend leur mariage par les journaux. Donc c'est très violent, c'est très cruel. Et néanmoins, trois semaines plus tard, il est à nouveau à sa porte. Et petit à petit, pas tout de suite, mais petit à petit, une forme de relation différente, certainement, va reprendre. Une relation cachée, une relation qu'elle va considérer aussi comme humiliante par certains aspects. Mais qui est une relation unique, un lien unique entre les deux, que rien, si ce n'est la mort d'Onassis en 75, ne va pouvoir arrêter. Et il n'y a certainement pas de hasard quant au fait que Callas décède à peine un an et demi après Onassis.
Les amants de Piaf, vus par le journaliste et biographe Jacques Pessis.
Il se trouve que les hommes, effectivement, il y en a eu beaucoup, beaucoup, depuis ses jeunes années. Il y a eu ceux qui ont compté, mais ceux qui ont compté, elle avait un côté pygmalion, elle leur apprenait quelque chose. En réalité, elle aimait les hommes, mais elle aimait les hommes comme une enfant qui a un jouet et qui un jour s'en sépare. Elle tombait amoureuse, très régulièrement, mais quand elle en avait assez, elle se séparait de cet homme. Un seul homme l'a quitté dans sa vie, Georges Moustakis, qui en a eu marre un jour à New York et qui est rentré à Paris. Et d'ailleurs, elle n'y en a pas voulu, puisque après la mort de Piaf, on a trouvé dans son sac une seule photo, celle de Moustakis.
le chanteur à la gueule de métèque, Georges Moustaki.
L'ennemi qui a un peu sapé notre relation, c'était l'alcool. L'alcool la rendait invivable.
Vous voulez dire que c'est vous qui avez décidé de partir ?
Quand j'ai su que l'alcool me supplantait, j'ai eu envie d'arrêter, oui.
Vous avez continué à l'aimer ?
Mais je continue à l'aimer. Pour moi, Piaf m'émeut, me touche et me... Oui, m'impressionne tout le temps.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Sur scène et dans ses chansons, Céline Dion a conjugué l'idéal amoureux sous toutes ses formes, mais c'est un amour singulier qui est au cœur de sa vie. L'animatrice, Eugénie Lépine-Blondeau.
Je pense que la première chose qui fascine avec le couple Dion-Angéline, c'est d'abord et avant tout leur différence d'âge, en fait. Il y a 26 ans de différence. Donc ça, c'est sûr que ça choque ou ça nous titille l'esprit. Puis juste comment ils se sont rencontrés, en fait, c'est presque digne d'un conte de fées. Céline Dion qui chantait dès son plus jeune âge, sa mère qui croit au talent de sa petite dernière, qui l'amène en fait voir cet impresario connu, mais un peu déchu, qui est René Angélil à cette époque-là. Et donc, on connaît tous et toutes la légende de cette rencontre-là. Céline et Maman Dion arrivent au bureau de René. René lui donne un crayon, lui dit « fait comme si c'était un micro ». Et là, Céline se met à chanter cette chanson que sa mère a composée, « Ce n'était qu'un rêve ». Et là, coup de foudre pour ce grand talent.
« Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Mais si beau.
Elle avait 12 ans à ce moment-là, il était 26 ans son aîné. Et donc, après, ils ne se sont plus jamais lâchés. Il a tout misé sur elle, tout misé sur son talent. Et la légende veut qu'à 18 ans, après déjà 5-6 ans à voyager ensemble, à faire des albums ensemble, ben Céline, au moment de sa majorité, aurait avoué son amour qui était plus platonique, on ne sait pas s'il l'a déjà été, mais de Céline envers René, à René. Et René aurait été, un petit peu plus réfractaire, peut-être, à aller de l'avant dans cette union-là avec sa protégée.
L'amour entre Céline et son gérant, René Angélil, a longtemps été gardé secret. C'est en 1993, lors du lancement de l'album « The Color of My Love », que Céline se dévoile. À l'émission de Jean-Sébastien Girard, l'animatrice Sonia Benezra se souvient.
Tu étais l'intervieweuse officielle au Québec de
oui.
Céline Dion.
Oui.
C'est à toi, entre autres, qu'elle a déclaré son amour à René Angélil. On l'avait pas vu venir, ça. Au lancement de The Color of My Love, quel souvenir tu gardes de ça, de cette déclaration-là?
Oh my God!
Est-ce que c'était un peu spontané ou c'était une grosse opération
marketing? Non, regardez, c'était vraiment une soirée très énervante. J'avais fait oui au Métropolis et je dois vous dire que Céline était d'un calme jamais vu. Elle savait qu'elle était prête, qu'elle voulait déclarer
son
amour. Ça fait
des années qu'elle voulait le dire,
oui.
Elle.
Mais René tremblait. Et lui, il avait beaucoup, il avait une peur bleue. Il m'avait dit, je ne sais pas comment les gens vont réagir, je ne sais pas comment... Les... Et il a fallu que je le pousse dans le dos pour le faire sortir. Mais elle, pas du tout. Elle était prête.
Mais finalement, l'histoire leur aura donné raison parce que jusqu'à la mort de René, ce couple, d'abord professionnel, mais ensuite amoureux, sera resté extrêmement uni. C'est peut-être un peu ringard, là, mais j'ai vraiment la chanson de Beauty and the Beast en la tête là, que Céline a chanté. Là. Tales as old as time. T'sais, c'est vraiment leur histoire, en fait. C'est cette grande histoire d'amour qui est un peu comme un conte de fées moderne, finalement.
Pour les amoureux ayant une grande différence d'âge, le principal écueil est très souvent le temps qui fuit. En 2012, à l'émission Tout le monde en parle, animée par Guy Lepage et diffusée à Radio-Canada, Céline Dion parle de son amour pour ses enfants et son mari. On sait depuis un moment déjà que la santé de René Angélil est fragile.
Mesdames et messieurs, il y a le page.
Vous savez que l'amour, ça fait mal. Alors quand mes yeux se rapetissent un peu quand je parle d'amour, ça se peut. C'est pas de la peine, c'est de la passion. Le temps passe rapidement, c'est sûr que mon mari a 70 ans. Mais quand on a un père et un mari comme René, c'est immortel. Alors un jour, il partira, comme nous tous. Mais ce qu'il m'a déjà donné, ce qu'il a déjà transmis à mes enfants, c'est sûr que je me souhaite et que je leur souhaite qu'il soit là éternellement. Mais il le sera, d'une façon ou d'une autre, parce que ce qu'il transmet à tous les jours à ses enfants, c'est des valeurs qui n'ont pas de prix.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces douze appellasses, les amours s'y passent. Faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas les autres, oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je les dirai sans
La voix chantée prend parfois l'allure d'une envoûtante arme de séduction. L'actrice et chanteuse, Arielle Dombasle.
Marguerite Duras disait « Les hommes émeuvent les femmes d'abord par l'oreille. » Alors, c'est-à-dire que même des gens disgracieux, s'ils ont une jolie voix, ils sont extraordinairement attirants. La voix, c'est pas du tout neutre, c'est extraordinaire. Et c'est le reflet de l'âme parce que on sent à l'intérieur de la voix tellement de choses. On sent la chaleur, on sent l'affection, on sent... Parfois, on dit « Ah, cette voix est trop métallique !» Alors, on sent des coups de couteau.
Comment vous l'expliquez qu'une voix peut séduire alors que la personne qui chante peut parfois, comme vous dites, pas être hyper gracieuse ?
Alors, c'est justement ça, l'extraordinaire magie de la voix. Moi-même, j'observe énormément les oiseaux. Hein, et il y en a qui sont plus étonnants que d'autres. C'est immédiat. On se dit, mais c'est pas possible. Ça va comme ça, et puis comme ça, et bien, ah, c'est inouï. Et donc, c'est au-delà de la mélodie, c'est le son lui-même, son agencement.
Pour le biologiste Boukhar Diouf, le pouvoir de séduction incontestable de la voix chantée s'explique non pas par la magie, mais bien par la science.
Si la sélection naturelle l'a gardée, c'est que ça sert à quelque chose. C'est une innovation, et quand l'innovation arrive et la sélection naturelle le garde, c'est parce que ça sert à quelque chose. Et Darwin a écrit un bouquin fantastique, il l'appelle « La théorie de la sélection sexuelle ». Parce qu'il se disait, mais à quoi servent le chant? Parce que les animaux consacrent tellement de temps à chanter, à faire le tour, à danser, mais ça sert à pourquoi la sélection naturelle a gardé ça? C'est parce que les femelles sélectionnent, et les femelles sélectionnent en fonction du timbre de la voix chez les oiseaux. Et si tu ne développes pas ça, ben tu ne vas pas te reproduire. Et la chanson doit au choix des femelles dans l'évolution du vivant, beaucoup. Toutes les chanteurs vous te le diront, souvent la chanson, c'est par la séduction. Comme les oiseaux, exactement. Les parades arrivent et chacun arrive, puis chante, se chante, danse, fait le tour. Les oiseaux sont extraordinaires pour ça.
Donc, si je te comprends bien, pour un oiseau mâle, avoir une relation sexuelle, ça passe toujours par un The Voice, un Star Academy ou un Eurovision?
Oui, exactement. Mais il y en a qui ont même des lecs. Ils appellent ça les lecs. Ça veut dire que les femelles arrivent, s'installent, puis les mâles, toutes les mâles arrivent, puis ils rivalisent. Ils dansent, puis chantent, puis les femelles les observent. Les femelles les observent, puis de temps en temps, il y en a un qui se démarque totalement des autres et c'est lui qui se reproduit. 50% ou 60% des femelles vont aller vers un seul mâle. Le mâle qui a gagné la compétition Star Academy, comme tu dis, c'est vraiment ça, là.
Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, anything called love. Let me tell you about the stars in the sky, the girl and the guy, and the way they could kiss on a night like this. When I look into your big brown eyes, it's very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love.
L'actrice sociétaire de la Comédie Française, Françoise Gillard.
Chanter l'amour, c'est aimer les autres. Donc je pense que celui qui aime les autres aura forcément cette signature dans sa voix. Et je ne peux pas trouver un chanteur. Il y en a tellement qui ont bien chanté l'amour. Alors je vais penser à Brel, parce qu'en plus je suis belge. Donc forcément, j'ai été bercée à Brel. Et sa manière qu'il a de chanter l'amour, c'est la manière aussi qu'il a chanté la fin de l'amour. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est parler aussi de l'après, de la rupture, de la fracture, de l'amour qui peut faire souffrir. Et je pense que cette émotion-là, elle naît de celui qui l'a sans doute traversée et qui la met en musique parce que tout d'un coup, ça résonne en lui et qu'il arrive à la partager.
Radioscopie.
De son propre aveu, Jacques Brel n'a jamais eu le physique d'un jeune premier. Il a trouvé dans sa voix une alliée pour aborder et charmer le monde. En 1973, à l'émission de Jacques Chancel.
Je crois que quand on est vilain tout petit, on se passe très vite de soi en tant qu'être prioritaire. Ça doit être très difficile d'être beau à 15 ans, pour l'avenir.
Pourquoi vous dites quand
on est vilain? Parce qu'on s'aperçoit très vite quand on n'est pas beau. Ce n'est pas du tout un complexe, c'est un constat.
Vous en parlez quand même souvent.
Mais oui, parce que je crois que c'est une explication. On s'aperçoit très vite, quand on n'est pas beau, que l'intérêt qu'on peut avoir n'est pas en soi, mais dans le mouvement que l'on peut éventuellement avoir, ou dans l'apport que l'on peut éventuellement faire aux autres. Alors que les gens beaux, si vous voulez, le pôle d'intérêt, c'est eux. Et s'ils ne sont pas extrêmement vigilants, ils finissent par croire qu'ils existent.
Vous êtes blessé et vous ne souffrez pas.
Oui, c'est exactement ça. Je crois que il est extrêmement mal élevé lorsqu'on est blessé de le faire savoir. Ça ne concerne personne. Il est assez détestable de rencontrer des gens qui vous disent toujours que ça ne va pas. Je crois que c'est un problème de bonne éducation dans le vrai sens du mot, de dignité.
J'en parle parce que vous en parlez, vous parlez de ce physique. Si, comme vous le dites, vous aviez été beau, vous auriez eu une carrière tout à fait différente.
Oh, je crois que je n'aurais pas eu de carrière.
Du tout.
Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est évident. Quand on est beau, on se suffit, n'est-ce pas? Enfin, on suffit. Mais on devient vite suffisant en vieillissant, sans doute. Je crois que c'est un grand danger d'être beau au démarrage.
Ça facilite trop de choses.
Oui, ça donne de fausses valeurs, n'est-ce pas?
Vos films sont des indications. Bon, on parlera du Far West tout à l'heure, mais dans France, il y avait quand même une pénible approche des femmes, par exemple.
Oui.
Qui vient d'une grande timidité.
Oui, sûrement. Sûrement. Mais je crois aussi qu'il est excellent d'être timide avec les femmes. Il me paraît insensé de ne pas être timide vis-à-vis de quoi que ce soit de vivant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Non, très bien.
Il s'agit de vivre sur la pointe des pieds. Nous dérangeons à chaque mouvement, n'est-ce pas? Alors il faut une infinie pudeur pour se faire pardonner le mouvement que l'on commet. Je crois cela vraiment. C'est pour ça qu'un homme qui ne tremble pas devant une femme, il ne faut pas venir me dire que c'est de la virilité. C'est de la sottise. Il faut trembler jusqu'à sa mort devant les femmes. Sûrement.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de gêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier drame s'en va, on doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine, Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène, Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, mais Madeleine, elle aimera ça.
Les hommes ont été nombreux à défiler dans la vie d'Édith Piaf, mais il y en a un qui les a tous surpassés, le biographe Jacques Pessis.
Il y a eu surtout Marcel Cerdan. Marcel Cerdan, elle le rencontre un soir à Paris, au Club des Cinq, qui était un cabaret.
On veut lui présenter Cerdan, il dit ben, un boxeur, pourquoi pas, ça me changera. Ils se parlent, ils se saluent, et rien d'autre. Et puis l'année suivante, elle est à New York un soir dans un restaurant, chez Jean, et elle dîne en face de Cerdan. Ils ne vont plus se quitter. Il va vraiment être l'homme de sa vie. Il est marié, elle le sait, elle n'en a rien à faire. Et elle va vraiment l'entraîner pour qu'il puisse devenir champion du monde. Et il devient champion du monde contre Tony Zell grâce à Piaf, qui l'a obligé à courir, à ne pas manger n'importe quoi, qui a fait sa culture. Elle lui a appris à lire des livres, à s'intéresser à tout. Et c'est vraiment l'homme de sa vie. Et puis, un jour, Marcel Cerdan est à Paris, il doit rejoindre Piaf par le bateau. Elle l'appelle, elle lui dit « Écoute, non, j'ai envie de te voir, j'ai trop envie de te voir, prends l'avion. » Et il restait 2 billets d'avion. Et Cerdan prend 1 billet d'avion. Et puis, on l'attend à New York. On va l'attendre longtemps, puisque l'avion va s'écraser complètement sur une montagne.
Hélas, hélas, 3 fois hélas, il n'y a maintenant plus de doute. Marcel Cerdan est bien mort. Une dernière dépêche de l'United Press, datée de Ponta Delgada, à 7h35, il y a seulement 10 minutes, nous apprend en effet que les corps de Marcel Cerdan et de la violoniste Ginette Neveu ont été identifiés.
Lorsque Piaf attend Marcel Cerdan à New York et qu'on lui apprend qu'il est mort d'un accident, elle s'effondre complètement. C'est la fin d'une vie. Elle se reproche de lui avoir dit de prendre l'avion alors qu'il devait prendre le bateau. Et je pense que ça va la marquer à vie. Piaf est morte d'une polyarthrite et je pense que cette polyarthrite a débuté par le choc qu'a représenté la mort de Marcel Cerdan. Elle n'y croyait pas, mais elle dit « je vais chanter quand même ». Et le soir même, au Versailles, où elle se produit, elle chante, et elle chante l'hymne à l'amour, en souvenir de Marcel. Et la salle se met debout, et elle s'effondre en coulisses. Et là, il y a aussi une autre légende. On dit que l'hymne à l'amour est une chanson née de son amour avec Cerdan. C'est totalement faux. En fait, elle a écrit cette chanson un après-midi avec Charles Aznavour. Un jour, Aznavour lui dit « écoute, tu aurais une chanson », et il lui donne les 2 premiers vers. Le ciel bleu, etc. C'est lui qui les trouve. Et elle continue la chanson, elle lui lit le texte à la fin, et Aznavour lit le texte et dit « Ta chanson, c'est un hymne à l'amour. » Très bien, ce sera le titre. Et c'est comme ça que l'hymne à l'amour est né.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le maman l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma bande les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
plus que toute autre chanteuse. Dalida trône au panthéon des grandes voix qui ont chanté l'amour, mais dont la destinée amoureuse, elle, a été tragique. Jacques Pessis.
Dalida est tombée amoureuse d'un jeune chanteur, Luigi Tenco, un chanteur italien. Elle a des origines italiennes, ça tombe bien. Et c'est vraiment le grand amour de sa vie. Elle veut l'aider à réussir sa carrière. Elle devient son Pygmalion ou sa Pygmalionne, vous choisirez. Et puis, Luigi Tenco veut réussir autant qu'elle. Donc, il s'inscrit au Festival de San Remo, qui est le grand festival des jeunes talents. Et il demande à Dalida d'être sa marraine. Et puis, elle craque pour cet homme. Elle accepte d'aller chanter à San Remo et d'être la marraine du festival. Il se produit en première partie dans le concours où il y a les éliminations.
La solita strada, bianca come sale.
Il a un peu bu avant, il est nerveux, il chante sa chanson très très mal. Et il est immédiatement éliminé. Il repart en voiture comme un fou à l'hôtel. Dalida est avec lui, elle essaye de le calmer. « Non, je veux aller à l'hôtel, retourne là-bas, retourne, tu dois chanter. » Elle le laisse à l'hôtel, elle retourne à San Remo, elle rentre après la soirée où elle a chanté, elle va dans leur chambre, elle le découvre mort sur le tapis, il s'est tiré une balle dans la tête. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle n'imaginait pas un seul instant qu'il puisse faire ce geste, et elle s'en veut parce qu'elle l'a laissé. Elle est repartie au festival, elle l'a laissé. Et je pense que c'est le grand drame de sa vie, que plus rien ensuite n'a jamais été comme avant.
Lorsqu'on voit des archives de l'époque, ça aussi, c'est une déferlante dans les journaux. Il y a des photos, on la voit en pyjama. C'est fou.
La mort de Luigi Tenco a été un grand événement médiatique. Tous les journaux en ont parlé, bien sûr, et ont surtout parlé de Dalida, qui tombait en dépression. Et quelques temps plus tard, elle décide de mettre fin à ses jours. Elle ne dit rien, elle prend dans un palace parisien une chambre sous un pseudonyme, elle laisse une lettre, elle s'allonge avec des barbituriques. Et le lendemain, la femme de ménage, voyant le panneau ne pas déranger un peu trop long, décide quand même d'entrer. Et elle trouve Dalida mourante. Et on va immédiatement appeler un médecin, et par miracle, après quelques jours de coma, elle va s'en sortir en disant qu'elle regrette son geste et qu'elle ne recommencera plus jamais.
Radioscopie.
Dalida.
Jacques Chancel.
En 1970, à peine 3 ans après la mort de Luigi, c'est aussi au micro de Jacques Chancel que Dalida se confie librement.
Dalida, on va rappeler tout de suite les mauvais souvenirs pour ensuite voir la vie en rose, car il y a un épisode de votre vie, un autre épisode, très douloureux. On va y passer très vite, je sais que vous n'aimez pas vous attarder là-dessus.
Non, mais je crois...
C'est l'épisode de
actuellement, oui, mais actuellement, je pense que tous les épisodes de notre vie, ça nous sert de leçons, ce sont des expériences, et ça, c'est très important. Alors, pour moi, bien sûr, dans ma vie, je pourrais dire la chose la plus importante, ça a été mon départ d'Égypte, la rencontre avec Lucien. Ensuite, la chose la très importante, ça a été San Remo, mais dans le tragique, dans le dramatique, c'est là que j'ai été le plus enrichie.
Il faudrait
Parce
rappeler...
que quand on va jusqu'au fond, au fond des choses, c'est là qu'on voit clair.
Il faudrait rappeler Dalida, car je sais bien qu'à l'époque, et on le rappelle encore, tous les journaux ont raconté cette affaire. C'est Luigi Tenco qui s'est suicidé en plein festival de San Remo.
Oui.
Et je ne sais pas, je ne suis pas tellement au courant, vous ne me l'avez pas dit d'une manière très personnelle, vous étiez au centre de cette affaire. En tout cas, vous en avez personnellement beaucoup souffert. C'était parce que... Enfin, vous rencontriez le véritable amour ?
Je crois que si. Oui, je crois que si. C'était un amour qui avait duré seulement 2 mois. Et puis, ce suicide est arrivé dans ma vie. Je n'avais jamais pensé à la mort. Même quand mon père, il était mort, cela ne m'avait pas du tout frappé. Et je n'avais plus du tout pensé à la mort. Et puis, tout d'un coup, je me suis trouvée un jour devant la mort, mais devant un suicidé. Alors, et en plus, cette personne, je l'aimais. Et je n'ai plus senti la force vraiment de vivre, absolument pas.
Ensuite, Dalida, vous avez pensé aussi à la mort. Et je me demande devant la mort, lorsqu'on veut partir, quand on veut tout quitter, si c'est ou du courage ou de la faiblesse.
Ah, voilà, c'est une question qu'après je me suis demandé. Mais je crois qu'il y a les deux. Certainement, il y a les deux. Et c'est seulement quand on se connaît très, très bien qu'on arrive à savoir si c'était du courage ou de la faiblesse. Pour le moment, je sais un peu, mais je ne me connais pas encore tout à fait.
Malgré la fin tragique de Luigi Tenco à Sanremo, sa chanson « Ciao, amore, ciao » ne s'éteindra pas. Dalida l'a fait sienne et elle ne quittera plus son répertoire.
Nous sommes deux ombres et deux solitudes. Un grand amour sombre dans les habitudes. Et l'on ose à peine rompre les silences. Mieux vaudrait la haine que l'indifférence. Mais je veux vivre, vivre, vivre. Je veux qu'on m'aime. Ciao, amore, ciao, amore, ciao, amore, ciao. Ciao, amore, ciao, amore, ciao, amore, ciao. Nous vivons dans du rose, dans du gris monotone. J'ai besoin d'autre chose que d'un chat qui ronronne. Je veux voir le monde, qu'il soit gai ou triste, qu'il chante ou qu'il gronde. Vu qu'il existe, je veux voir des villes, qu'elles soient blanches ou rouges, et des yeux qui brillent, et des gens qui bougent. Moi je veux vivre, vivre, vivre comme ceux qui s'aiment. Je
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. Aux archives de Radio-Canada, Sophie-Hélène Gibson et Suzy Hood. Aux archives de l'INA, Delphine André et Christelle Rousseau. Aux archives de la RTBF, Didier Scatman. Cette émission est signée Francis Legault.